Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, je vous prie de m'excuser pour le petit retard de ce podcast qui n'est pas sorti dimanche soir mais qui sort aujourd'hui lundi. Il faut pas s'inquiéter, ça arrive de temps en temps, je vous avais prévenu, mais bon, certains d'entre vous sont passés à côté de l'information, donc je le répète. Les podcasts peuvent sortir des fois avec un peu de retard, il n'y a pas de souci. Les amis, quatrième podcast sur la période de l'Avent, toujours en partenariat avec Terre de France, qui sponsorise donc cette série de podcasts sur la thématique de l'Avent. Il est encore temps de commander vos cadeaux. Vous savez que au dernier moment, ça sera compliqué, même pour la poste. Là, on est le 9. Il est toujours à temps de commander maintenant sur le site de Terre de France. Vous trouverez plein de jolies choses à offrir à vos proches. Et puis surtout, vous ferez d'une pierre trois coups. Vous me soutenez, vous soutenez l'entreprise française qui fait fabriquer en France par des artisans français. Et vous soutiendrez l'association de Pierre-Guillaume Mercadal, l'association Sésame. Tout simplement parce que Terre de France reverse ses bénéfices non seulement à des associations de militaires, mais aussi à des associations de paysans. Et cette année, l'association de paysans, ben c'est Sésame, c'est celle de Pierre-Guillaume qui d'ailleurs a commencé à faire des actions avec la coordination rurale à Rungis. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi. Suivez-le, je pense que les paysans vont avoir leur mot à dire cet hiver. On va arriver dans une période de grands troubles. Je pense que vous avez tous suivi l'actualité. Le monde se crispe de plus en plus, la société française aussi. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Donc, il va se passer des choses et il est fort probable que les paysans aient leur mot à dire là-dessus puisque ben, ils sont directement impactés par les accords Mercosur qui menacent donc l'agriculture française. Ça mettrait vraiment un coup de grâce à la paysannerie française. Et je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de pays sans paysans. Les paysans, c'est ce qui nous rattache au terroir. C'est ce qu'il y a de plus noble. C'est ce qu'il y a de plus, de plus rattaché à l'esprit et à l'âme d'un pays. Donc, il faut absolument les soutenir. En achetant chez Terre de France, vous faites d'une pierre trois coups, comme je vous le disais. Voilà les amis, on peut passer au podcast. Le podcast qui sera... Alors, attendez avant de vous affoler que je vous explique. Ce sera le dernier avant les vacances de Noël, mais vous aurez comme promis à la place des deux autres podcasts qui auraient dû avoir jusqu'à Noël, des vidéos. Vous savez que je vous avais dit que quand je ne peux pas fournir de podcast, j'essaie de me débrouiller pour que vous ayez du contenu alternatif, notamment du contenu vidéo. Il y a une vidéo avec The Rob qui va sortir très prochainement, et il y a une vidéo avec notre ami Le Raptor qui sortira aussi prochainement, donc voilà. Et puis après, il y aura tout simplement la coupure de Noël que je souhaiterais observer, tout simplement pour me rapprocher un petit peu de ma famille, pour pouvoir me consacrer à ce moment, qui est un moment très important. Je vous en parle depuis plusieurs podcasts, le moment de Noël, c'est vraiment très important. C'est non seulement festif, vous le savez, mais c'est aussi extrêmement spirituel. C'est un moment spirituel, il faut jamais l'oublier. Et j'aimerais pouvoir me concentrer sur l'aspect spirituel de Noël cette année. Donc voilà, donc je vais faire une petite coupure. De toute façon, dans l'année en général, il y a deux coupures. Il y a la petite coupure de Noël et il y a la coupure de l'été pour que je puisse un peu me consacrer à d'autres projets. Donc voilà, et puis surtout, il y aura de toute façon, pour ceux que ça intéresse, un live sur Patreon. Alors celui-ci ne sera pas en accès libre. Mais je le publierai sur Instagram, je vous donnerai la date et l'heure sur Instagram. C'est un format que vous aimez beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de le refaire. Le problème, c'est que je suis censuré sur beaucoup de supports. Et aussi, le problème du live, c'est que j'aborde des thèmes qui donnent à manger à mes détracteurs qui font du commentaire sur mon contenu. C'est insupportable, donc je ne souhaite pas offrir cette opportunité aux commentateurs qui ne produisent jamais rien, qui se bornent à commenter. Donc je préfère faire ça dans le cercle privé. Pour les gens qui me suivent et qui... voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un tout petit prix. J'ai mis le prix d'une place de cinéma dans les années 90, je trouvais ça assez symbolique, qui correspond, je crois, à 3,20€ et quelques. Donc 21 ou 22 francs ou 25 francs, ça équivaut à peu près à 3,20€. Donc voilà, ce sera ça le prix d'accès. Mais c'est pour qu'on se retrouve aussi entre initiés et que j'ai pas les trolls et les vagues de signalement qui me pourrissent la vie. Voilà les amis, ça c'était pour les petites annonces. On va passer au corps du podcast, la période de l'avant, la nostalgie, hein, la corde de la nostalgie sur laquelle je joue régulièrement. J'adore la pincer pour moi-même et pour vous-même parce que je sais que c'est un sentiment très doux, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. plus la situation se tend, plus on a envie de recommunier un petit peu avec l'innocence qu'on avait étant enfant. Et même si le monde était aussi pourri que maintenant, hein, faut pas se leurrer, il y avait quand même une société un petit peu moins tendue et un petit peu moins crispée dans les années 90. Il y avait quand même l'espoir que la technologie qui allait venir avec l'an 2000 nous sauve de tout ce merdier. Bon, mais ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse. On a eu problème sur problème à partir des années 2000. Tout début 2000 d'ailleurs. Et puis ça n'a fait que s'aggraver. Et puis là, ces dernières années, enfin vraiment, c'est l'avalanche. Moi, je me demande comment on fait le système pour tenir. Parce que là, on assiste quand même à des bouleversements qui sont assez incroyables, quoi. Qui sont assez brutaux et assez incroyables. Donc écoutez, je sais pas vers quoi on va, mais pas vers un visionnage de Maman j'ai raté l'avion ou de Denis Lamalisse. Ça c'est pas un programme, j'ai l'impression, voilà. Surtout qu'en plus je déplore le fait, vous savez, avant le cinéma présentait une opportunité d'évasion, mais assez saine puisque c'était relativement court. On rentrait dans le cinéma, on regardait un film pendant une heure et demie, on était quand même absorbé par ce film. Et puis on ressortait, on avait eu notre petite évasion et puis on pouvait reprendre notre vie. Et des fois en étant inspiré par ce film au niveau des valeurs et tout, puisque dans les années 90 c'était très présent. Le cinéma qui montrait des héros qui étaient quand même des modèles, quoi. Même si certaines fois c'était pas très subtil, les valeurs qui étaient présentées étaient quand même très très saines, je trouve, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça avait cette vertu-là, et on n'est plus dans cette époque de réjouissance cinématographique où on peut un peu oublier. Alors il y a quelques perles qui sortent, hein, il y a quelques trucs très sympathiques. Moi, le dernier gros plaisir que j'ai eu au cinéma, c'était avec Mad Max, le 1, Mad Max Furiosa, Fury Road, excusez-moi, Mad Max Furiosa, c'est le deuxième. Et puis j'ai pas mal aimé le premier Dune. Je l'ai re-regardé, il y a quelques petites longueurs, mais c'est quand même un film extraordinaire, et c'est tout, quoi, hein. J'ai pas eu de grosses claques. Y a des films qui sur le papier devaient être intéressants, ils ont ressorti Ben-Hur. Bon, Ben-Hur c'est un putain de classique, on le regardait avant Noël, vous savez, cette période de Noël, là, ils nous repassaient tous les vieux péplums, tous les vieux westerns, c'était un régal, tu voyais des trucs, même si c'était très daté, ça envoyait le steak, quoi. Quand tu voyais Charlton Heston dans Ben-Hur, t'avais beau pas être de cette génération-là, tu te régalais, les films étaient très très bien faits, beaucoup de maîtrise, hein, beaucoup de budget, les acteurs charismatiques terriblement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu une panne de ça, on a des acteurs sympathiques et tout, des acteurs charismatiques, mais c'est plus l'avalanche de charisme comme il y avait jusque, je dirais, aux années 90, quoi. Début 2000, on a commencé à avoir tous les vieux dinosaures des années 90, enfin, les vieux dinosaures qui avaient démarré au début des années 70, les Schwarzenegger, les Stallone et tout ça, un peu se retirer, et il n'y a plus personne qui a repris le lead. On est arrivé sur des films, les Marvel, tout ça et tout, bon, c'est absolument inintéressant à mes yeux. Il y a quelques trucs sympas, mais je veux dire, ça n'a pas la puissance qu'avaient les Rocky, les Rambo, et même les films de science-fiction comme Alien, qui étaient très maîtrisés dans un autre registre. Avec des héroïnes très charismatiques, hein. Je rappelle que l'héroïne d'Alien, c'est une femme, et ça marche très très bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu morne, donc il nous revient le travail de recréer de la magie à Noël. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer des stories et des vidéos de vos crèches, des moments que vous passez avec vos enfants, des moments que vous passez près du feu, des moments que vous passez en famille, de ce que vous avez prévu de faire pour Noël. C'est super, je vois qu'il y en a beaucoup qui font l'effort de vous savez, l'amour, le bien-être, la fin de la dépression, la fierté de soi, un pays qui va mieux, ça ne se souhaite pas, pratiquement, ça se décrète à échelle personnelle. Voilà. Et je vous le répète, podcast après podcast, plus on est de personnes à décréter qu'il y aura de la magie à Noël, que notre pays va s'en sortir, qu'on va surmonter telle épreuve, qu'on va devenir de meilleurs êtres humains, et bien en fait, plus on est à le faire, plus ça rejaillit sur le collectif. Et quand je parle de collectif, c'est même à l'échelle familiale, en fait. Là, j'ai vu des vidéos de vos enfants, parce que vous avez été plusieurs, hein, m'envoyer ça, des moments que vous passez avec vos enfants en regardant des classiques des années 80-90. Mais écoutez, c'est super. Et ça demande, alors, bon, c'est des efforts qui sont agréables à produire, on va pas se mentir. C'est pas comme aller faire un footing tous les matins à 5h du matin, on va pas déconner. Mais si vous voulez, le fait de se poser, de faire la petite crèche, d'avoir mis le sapin, de passer un peu de temps à vos enfants, de parler avec eux, de sacraliser ce moment de Noël, d'envisager de les amener à la messe et tout ça. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont même envoyé le programme de Noël. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Franchement, c'est magnifique. Hein, et on a besoin de ça. On a besoin de fabriquer une génération qui a des repères sains, qui regarde l'écran avec parcimonie et puis surtout en faisant le tri, en regardant plutôt des bonnes choses et puis le reste, quoi, les reconnecter aux produits des rois. Il y a plein d'entre vous qui m'ont envoyé des photos, des plats et des mets et des vins et des alcools et des fromages que vous allez bouffer à Noël et je trouve ça super. Je trouve ça super, c'est très très bien d'allier tout ça. Et puis plus on est de fous, plus on rit, hein. Plus il y a de nourriture traditionnelle, plus il y a de crèches, de messes, de moments en famille, mieux c'est. Faut pas hésiter. À Noël, c'est le moment de la profusion. C'est la naissance du Christ symboliquement, donc il faut pas hésiter à faire ça. Et voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai décidé à la suite de tout ce que vous m'avez envoyé, j'ai décidé de vous parler de mes meilleurs souvenirs de Noël, ou en tout cas les Noëls qui m'ont marqué, les Noëls où j'étais heureux, les Noëls où j'étais bien. J'ai envie de vous en parler parce que je suis sûr qu'on a pour certaines choses, on a pour certains d'entre nous beaucoup de choses en commun sur nos raisons d'aimer Noël et d'autres choses qui sont complètement incongrues. Et j'aimerais vous en parler parce que un Noël corse, ce n'est pas un Noël lillois. Un Noël lillois, ce n'est pas un Noël du Sud-Ouest. Un Noël du Sud-Ouest, ce n'est pas un Noël congolais. Un Noël espagnol, ce n'est pas un Noël congolais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Moi, j'ai vécu un petit peu. Je vais vous raconter un peu les Noëls que j'ai vécu, les Noëls différents que j'ai vécu, les Noëls avec mon ex-famille, mon ex-belle-famille, lorsque j'ai épousé mon ex-femme qui était d'origine congolaise. J'ai passé un Noël en famille avec eux et je me suis régalé. J'aimerais vous raconter ça parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ignorent ce que ça peut être un Noël de noir, hein, pour parler clairement. Un Noël de noir en banlieue, bon ben c'est autre chose qu'un Noël à la campagne dans le Sud-Ouest, qui est encore autre chose qu'un Noël espagnol. Moi mais les premiers Noëls, si vous voulez, étaient des Noëls qu'on faisait à la sauce. C'était un mélange de traditions du Sud-Ouest, de produits du Sud-Ouest et de produits espagnols, tout simplement parce que je faisais Noël en famille et que ma famille est intégralement espagnole. Donc, on avait droit à toute une déclinaison de choses qu'on ne voit pas trop en France. Les Italiens ont des Noëls particuliers. Ce sont des traditions très très différentes et j'aimerais vous parler de celles que moi j'ai connues. Et peut-être que ça vous donne envie de faire vous aussi un Noël traditionnel de votre région avec des produits de votre région. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que le soir de Noël faire honneur à la terre, puisque c'est ce qu'a fait le père avec le fils en donnant le fils à la terre le jour de Noël. Ben, il faut faire la même chose pour nous, hein, symboliquement, faire honneur à la terre en consommant ses fruits et puis en communiant et en fraternisant avec les gens de cette terre. Voilà les amis. Alors, premier Noël, premier souvenir de Noël, je vous l'avais déjà raconté, mais je vais quand même revenir dessus parce que c'était extrêmement drôle. Mes parents m'avaient mis chez mes grands-parents avec le projet que mon grand-père se déguise en Père Noël. Mais je vous en avais déjà parlé, hein. Bon, mon grand-père qui était un vétéran de la guerre civile espagnole, je regrette de devoir le dire parce que je l'aime beaucoup, mais c'est la vérité, qui est un criminel de guerre, hein, qui a tué beaucoup de gens, qui a tué des hommes d'église et tout ça, c'était un anarchiste espagnol de la pire espèce, hein. Mais que voulez-vous, moi je l'aimais, c'était mon grand-père, je l'aimais, et j'avais pas conscience de tout ça, j'avais pas conscience de la politique, hein, et je le croiserai aujourd'hui, j'aurais toujours tant d'affection pour lui, mais je le verrais d'un œil évidemment différent. Mon grand-père était vraiment ce que l'Espagne de gauche avait produit de pire. C'était un type qui avait assassiné. Je l'ai raconté dans mes bouquins, mais peut-être que la plupart d'entre vous ne sont pas tombés dessus, ne les ont pas lus. Mais j'ai raconté un peu des trucs liés à mon grand-père pour vous poser un peu le personnage, pour que vous voyez un petit peu l'angoisse. Mon grand-père était donc un type, c'était un anarchiste, hein, vous savez qu'il y avait peu en réalité de communistes durant la guerre civile espagnole qui a eu lieu entre 36 et 39. Il y avait surtout des anarchistes contre des franquistes alors des anarchistes, des trotskistes, hein, il y avait le PUM, le syndicat du PUM, il y avait le syndicat de UGT-CNT qui était le syndicat anarchiste, qui était un syndicat de masse. Il y avait beaucoup, beaucoup d'ouvriers espagnols qui étaient anarchistes. Vous aviez ensuite les trotskistes, donc le PUM. Vous aviez ce qu'on appelait les soldats, entre guillemets, réguliers de la République, qui étaient, alors ça c'est mon autre grand-père, qui étaient plutôt des partisans de la République sans être forcément forcément communiste ou anarchiste. Hein. Il pouvait être communiste, il pouvait être aussi socialiste, hein, il pouvait être radicaux de gauche, hein, il pouvait être un peu toutes les déclinaisons de la gauche. Il y avait un peu de tout là-dedans parce que c'était l'armée régulière. C'est ceux qui voulaient, enfin l'armée régulière. Hein. C'était l'armée de la République. Voilà, la République qui s'opposait à la monarchie destituée. Et donc, du coup, à son défenseur, c'est-à-dire Franco, qui, lui, réunissait un petit peu les royalistes, donc les carlistes, les royalistes espagnols que sont les carlistes, qui sont un peu l'équivalent des Vendéens, c'est les Vendéens espagnols, les carlistes, et le syndicat de la Falange, qui est un syndicat majoritaire chez les franquistes, et qui était un syndicat d'inspiration plutôt fascisme ouvrier. Le fascisme à l'italienne, quoi, voilà, mais qui avait beaucoup de ressemblances avec certaines choses de gauche au niveau justement syndical, au niveau social, ce qui n'était pas le cas du carlisme, voilà. Moi, d'un point de vue politique, si je devais choisir un parti politique pendant la guerre civile espagnole, je serais plutôt carliste parce que c'est la défense du catholicisme et de la royauté, quoi, et c'est ce qui me plaît le plus. Et il n'y a pas de compromission avec les nazis ou avec le fascisme version italienne qui avait quand même beaucoup de choses à voir avec la gauche, voilà. Donc j'ai plutôt de la sympathie pour les carlistes. Moi, dans ma famille, il y avait personne qui était franquiste, tout le monde était d'extrême gauche, alors plusieurs extrêmes gauches. J'avais un grand-père qui était donc lui qui était plutôt communiste et qui était lui un vétéran de la guerre du Maroc qui a eu lieu avant la guerre civile espagnole et qui ensuite a fait la guerre de 39-45 en France. Lui, je ne l'ai jamais connu. Et qui était un mec qui avait la classe, qui était très beau physiquement, qui était très cultivé. Et j'avais mon autre grand-père maternel, le grand-père Jiménez, puisque le grand-père Gilles, je ne l'ai pas connu, le grand-père Jiménez, donc mon grand-père maternel, lui, c'était un espèce de boucher qui avait fait des exactions pendant la guerre, qui avait torturé des gens, qui avait brûlé des gens, enfin, mais l'horreur, quoi, l'horreur. Et lui, c'était un gigantesque. Alors, les gens étaient là, ça, c'était très drôle. Je le dis en aparté parce qu'il faut que je vous raconte un peu le grand-père, que vous compreniez, quoi. Vous compreniez un peu le profil. Le type, donc, il lisait le journal tous les jours. Et il cherchait un complot antisémite, parce que le mec était extrêmement antisémite. Il faut savoir que la gauche a été, et est toujours, une gigantesque machine antisémite. Alors, pas toutes les gauches. Moi, mes parents, c'était la gauche Parti communiste, PC. Ils étaient absolument pas antisémites, pas pour un sou. Mais par contre, mon grand-père anarchiste, l'anarchiste espagnol, le paysan espagnol anarchiste, lui, il bouffait du curé, du juif, du franc-maçon, du voilà. Il avait, enfin, la seule chose qu'il différenciait avec les franquistes, c'est que lui, il voulait que la terre, elle soit prise aux propriétaires terriens pour être redistribuée aux paysans. Après, sur tout le reste, et Dieu, voilà, il était fâché avec Dieu. Mais alors après tout le reste, je pense que le mec avait 100% de concordance avec n'importe quel nazi. Franchement. Pour trouver la différence, faut y aller, quoi. Donc lui, il était antisémite et il était extrêmement homophobe. Mais homophobe à un degré. Moi, ça me fait rire quand je suis accusé d'homophobie parce que j'ai envie de leur dire, mais attendez, laissez-moi vous présenter mon grand-père. Il était homophobe à un degré. Une fois, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le raconter. Une fois, on était en train. Il faisait 40 degrés dehors. Il faisait 40 degrés. On était en Espagne. J'étais avec mon cousin Germain. Celui qui a fondu un plomb par la suite, et mon petit frère, et on était en train de se cartonner avec des... On faisait une bataille de coussins, en fait, mais on était torse nu et en caleçon, quoi, en caleçon, enfin, en short de bain, quoi, en short de bain, parce qu'on allait à la piscine, et on se disputait, on s'envoyait des coups de coussin, et en fait, on a fait du bruit, et tout d'un coup, on a réveillé mon grand-père, qui s'est levé, parce qu'il faisait la sieste l'après-midi, évidemment, il s'est levé, il est rentré dans la chambre, il nous a regardé avec un air de dégoût, mais... extrême quand il nous a vus en slip, en fait. Il a ouvert la porte, il nous a regardé. Alors, il avait une particularité, c'est qu'il avait les yeux gris. Gris, voilà. Je connais très très peu de gens qui ont les yeux gris. Lui, il avait les yeux gris acier. Donc, il avait une gueule de gros métèque espagnol, mais il avait les yeux extrêmement gris. Donc, c'était très très particulier. T'avais vraiment l'impression que c'était la mort et l'huile d'olive qui te regardaient en même temps. C'était très particulier. Quand il rentre dans la pièce, il nous regarde avec ses yeux. Il y a un silence, parce qu'on comprend que ça va pas le faire. Et là, mon grand-père, en espagnol, il nous dit « Sois un par de maricones. Vous êtes une bande de gros pédés. Habillez-vous pédés en espagnol et tout. » Putain, la violence, la violence. Et alors, c'était très, très drôle parce que lui, alors... Les gitans, faut les mettre en prison. Les homosexuels, faut les tuer, c'est des déviants, c'est des bourgeois. Les juifs, faut les expulser. Voilà, le mec, et ça, c'était la gauche espagnole en 1936. Putain, le mec était fou, quoi. Il était fou, le type. Et donc, lui, voilà, lui, c'était ça, sa politique, monsieur. Donc, il lisait le journal, je vous racontais ça, il lisait le journal, et ma grand-mère lui disait, bon, alors, c'est quoi les nouvelles? Et mon grand-père, sans lever la tête, avec ses énormes lunettes en écailles de tortue, disait, je regarde ce que les Juifs sont en train de nous préparer. Voyez un peu l'animal. Voyez un peu le profil du mec. Il était complètement fou. Il cherchait la prochaine guerre, en fait, le type. Parce qu'il n'en avait pas eu assez avec 1936-1939. Il voulait y retourner. Il me le disait. Il me disait, dès qu'il y a une guerre qui rééclate en Espagne, j'y vais, on va reprendre le pouvoir. Enfin, il était complètement fou. Et voilà. Donc, lui avait été chargé par mes parents. Bon, avec l'âge, évidemment, il s'était quand même. Il était quand même plus ou moins sous contrôle. J'allais dire, il s'est calmé. Non, c'est pas vrai. Mais il avait appris à arrêter de dire des phrases qui sont audibles en 1936 dans un contexte paysan, mais plus en 2002, ou en 1990, quoi. Il est décédé en 2002. Mais dans les années 90, si vous voulez, moi, j'ai plein de souvenirs avec lui. Donc, et puis c'était très drôle parce qu'il habitait à côté de la fac du Mirail et il allait chercher. Son grand truc, c'était de faire des pièges à lapins dans les terrains vagues qu'il y avait au Mirail, puisqu'à l'époque, il y avait encore des terrains vagues. Avant que ça construise partout, surtout autour de la fac, il y avait une espèce de terrain vague à côté de la fac du Mirail, tout petit, où il y avait des lapins. Et lui, il posait des pièges à lapins. Donc on allait chercher les lapins étranglés le matin pour les cuisiner, pour que ma grand-mère les cuisine. Et ensuite, le gonze, il allait cueillir avec sa serpette des champignons qui poussaient sur les pelouses, et notamment la pelouse de la fac du Mirail, voilà. Et je me rappelle que je l'avais accompagné, il poussait un peu les étudiants pour qu'ils triquent leur cul de ce zbab de merde, de là où il y avait des champignons, quoi. Et les mecs le vénéraient parce que c'était le républicain espagnol, quoi, le défenseur de la liberté, c'était le grand héros antifasciste, tu vois. Putain, mais moi je me disais, mais enculé, mais vos sarouels, mais en fait ils vous brûlent avec vos sarouels, ce mec. Ah putain, les mecs étaient là, oui, Carlos, il s'appelait Carlos, il me disait, ah monsieur Carlos, ah bravo pour ce que vous avez fait, tout ça, putain, et je me disais, mais attends, mais t'es en train de féliciter un putain de criminel de guerre, en fait. Ah putain, et bon, et donc lui, ils avaient entrepris, excusez-moi, je suis parti dans tous les sens, ils avaient entrepris à Noël, alors ma grand-mère était ultra catho, ma grand-mère était ultra catho, mais en fait, elle est arrivée en France assez âgée, après la guerre civile. Et en fait, elle voulait absolument ne pas finir vieille fille. Elle voulait absolument, parce que vous vous demandez comment ma grand-mère, qui était ultra catholique, pour ceux qui ont suivi, qui connaissent un peu mon histoire, comment ma grand-mère ultra catholique a pu finir avec un anarchiste dégueulasse pareil. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère était ultra catholique. Elle était ni pro ni anti-franquiste. Hein. C'est son père qui a été assassiné par les franquistes. Et donc, du coup, elle est partie en France parce qu'elle se sentait menacée. Et donc elle est arrivée assez âgée en France, elle a pu rentrer en France assez âgée, et en fait c'était un peu le dernier carat pour faire des enfants. Donc elle s'est mariée avec mon grand-père à la va-vite, alors que c'était pas du tout le genre de mec qui lui plaisait. Elle avait grandi comme une bourgeoise catholique en Espagne, son père était un propriétaire terrien avec une particule et un titre de noblesse, mon arrière-grand-père maternel, et donc elle était promise normalement à un mec. Elle était promise en fait à un type qui était le chef de le chef de la Guardia Civil. Et en fait, pendant la guerre, en fait, son père ayant été assassiné avec la complicité de ce mec-là, elle a renoncé à se marier avec ce mec-là alors qu'elle aurait eu une vie, mais par honneur, quoi, voilà, parce que c'était les femmes à l'ancienne, elles étaient comme ça. Par honneur et pour honorer la mémoire de son père qui était décédé en sortant de prison, juste en sortant de prison. Elle a refusé de d'épouser cet homme qui était riche, qui était très haut placé dans la Guardia Civile, qui était un très bon parti, quoi, hein, pour une femme de sa qualité. Et elle a fui en France et elle a épousé mon grand-père le bœuf, qui était un sauvage absolu, qui avait aucune éducation, enfin, qui était horrible. Et elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Alors elle a beaucoup milité pour qu'on se rattache justement aux traditions de Noël, du catholicisme et tout. Et à côté, elle avait une espèce d'anarchiste insupportable, tueur de curé, alors que ma grand-mère a tout donné. Tout ce qu'elle avait, elle l'a donné à l'église. Et ce qu'elle n'a pas donné à l'église, l'église le lui a volé. Voilà, elle a été, sa famille a été spoliée par l'église. Alors, elle n'a jamais eu de discours anticlérical. C'était une authentique catholique. Elle a pardonné absolument... Parce qu'il y a de tout dans l'Église, hein, et surtout à cette époque-là. Donc il y a des gens opportunistes qui en ont profité pour lui voler tout ce qu'elle avait, et qui ont pris la maison de son père, qui ont préempté des terrains, tout ça et tout. Bon. Et elle n'en a jamais voulu à l'Église catholique, elle a même continué à donner à l'Église catholique par la suite, hein, parce que pour elle, et à juste titre, le catholicisme ne se résumait pas au tocard qu'il avait sali en la spoliant. Bon bref, je suis parti un peu en tous les sens, mais voilà, c'est pour vous donner un peu le tableau. Donc ma grand-mère, elle voulait qu'on fasse un Noël du catholicisme de l'an 1500, tu vois, alors on vient juste d'expulser les morts de Grenade, et on va faire le Noël le plus catholique de l'histoire. Donc il fallait chanter des petites chansons traditionnelles, là, ce qu'on appelle des villancicos en Espagne, c'est-à-dire des chansons dédiées à la Vierge Marie. C'est des chansons que chantent les enfants avant que les rois mages arrivent. Alors ma grand-mère avait jamais entendu parler du papa Noël, puisqu'en Espagne, ce n'est pas le Papa Noël qui amène les cadeaux, c'est les rois mages. Et les enfants reçoivent les cadeaux le 4 ou le 6 janvier, je ne me rappelle jamais, je crois que c'est le 6 janvier. Ils reçoivent les cadeaux à ce moment-là. Et le soir de Noël, en fait, ils font un gros repas en famille. Ils ont le nouvel an et après, ils reçoivent le cadeau le 6 janvier. Voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'on a chez nous, quoi. Voilà. Et donc, du coup, il n'y avait pas de Père Noël. Mais la pression de la télé et des médias étant ce qu'elle est, ma grand-mère qui voulait quand même, qui avait un énorme désir d'intégration à la société française, ce qui n'était pas le cas de mon grand-père, il s'en branlait les couilles. Mais ma grand-mère, elle voulait vraiment devenir française. Hein. Elle trouvait que les Françaises avaient la classe, que la France était la classe, et à juste titre. Et donc, ma grand-mère parlait très très bien le français par rapport à mon grand-père et faisait beaucoup d'efforts pour vivre à la française. Alors, à la maison, on vivait à l'espagnol, mais quand on sortait, ma grand-mère voulait absolument ressembler aux Françaises de magazine, qui était un modèle de mode féminine pour l'intégralité de la planète. Ça, on l'a un peu oublié, mais il faut savoir que les Françaises ont été à la pointe de la mode pendant très très longtemps. Voilà, et c'est quelque chose qui malheureusement s'est un peu perdu, alors que c'était un essentiel à l'époque pour les femmes de se tenir au courant de ce qu'était la mode des Françaises à Paris, quoi. Donc voilà, donc ma grand-mère qui avait été élevée dans un cercle bourgeois, enfin noble, parce que la bourgeoisie et la noblesse, c'est des choses différentes, mais il y avait quand même de l'argent malgré la noblesse, et ce qui n'est pas toujours le cas. Elle rêvait de ça, elle rêvait de Paris, elle rêvait de vivre à la française, elle faisait beaucoup de choses à la française, voilà. Et donc elle tenait à ce qu'on fasse les deux, donc les rois mages pour le côté catholique, et le Papa Noël. Donc, mes parents décident de déguiser mon grand-père en Papa Noël. Alors, le problème, c'est qu'ils sont pas venus pour contrôler le déguisement, en fait. Donc, mon grand-père s'est foutu un cône de journal. Il s'est fait un chapeau de Père Noël avec un cône de journal. Donc, le mec avait l'air d'un géant Teletubbies. Il ressemblait à un putain de Teletubbies. Il avait pris un duvet rouge. Vous savez, les duvets rouges, là, qu'il y avait dans une matière dégueulasse, une matière synthétique, pour faire l'habit rouge du Père Noël, en fait. Donc c'était un vieux duvet, ils avaient creusé un trou, donc il avait passé la tête. Il avait un poncho, le mec, il avait un poncho en matière synthétique, si vous voulez, avec une fermeture éclair. Voilà, c'était ça le déguisement. Il avait un cône, il s'était fait de la barbe, mais il n'avait pas capté que le Père Noël, c'est de la barbe blanche. Donc ils avaient pris un bouchon de liège, ils l'avaient chauffé au feu, et il s'était écrasé de la suie sur la gueule. Donc le mec, avec ses yeux gris acier là, le mec avait une tronche d'extraterrestre, si vous voulez. Une gueule de notre monde. En fait, le mec voulait faire un truc rassurant. Il était déguisé en monstre, en fait. Le mec était déguisé en monstre, en clochard. Tu sais pas ce que c'était, quand il avait son duvet rouge, là, avec son, enfin, en poncho. Il avait son cône pour faire le chapeau du Père Noël. Mais le cône faisait, le cône faisait un mètre, en fait. On aurait dit un prisonnier d'Abou Ghraib, en fait. Et alors, le sommet, c'est que il avait pris un sac en toile de l'armée pour foutre les cadeaux dedans. Donc, il avait l'air d'un clodo qui s'était mis un cône de papier sur la tête. Vous savez, dans les tableaux de Goya, il y a des mecs qui ont des cônes de papier, là. C'est les pénitents qui vont brûler ou qui vont être garrottés. Il y avait vraiment ce côté goyesque. Il ressemblait à un tableau de Goya, mais en 1990. C'était très, très, très particulier. Et donc, ma grand-mère reste avec moi. On était dans un HLM au Mirail à ce moment-là. Donc j'étais assez jeune, j'étais même très petit et tout, et ma grand-mère me dit, putain, il y a le Père Noël, il va venir nous voir, le Père Noël, il va venir nous voir, parce que t'as été sage, tu vas avoir des cadeaux, putain, je suis là, attends, qu'est-ce qui se passe, hein? Le Père Noël qui déboule me voir, c'est quoi cette histoire, en fait? Et là, quand ça sonne, elle me dit, ah, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël, en fait, c'était mon grand-père qui était derrière la porte. J'ouvre la porte, Je vois un espèce de métèque espagnol avec un putain de conne sur la FIFA. De la suie sur la gueule, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gitan des tréfonds de l'enfer? Bonjour les chanfans, comment ça va? Putain, je suis allé me cacher sous le lit, j'étais traumato, j'ai pleuré quand. Et mon grand-père qui commence à essayer de venir me voir sous le lit, mais le film d'horreur, je criais moi. Il me poursuit le mec. Je comprenais pas pourquoi il y avait un étranger dans l'appartement et que le mec me poursuivait sous le lit de ma grand-mère. Putain. Oh putain, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Et là, ma grand-mère a commencé à enchaîner mon grand-père en fait. Elle lui mettait des tapes. Elle lui mettait des tapes. Le mec, il comprenait pas pourquoi il se faisait taper, quoi. Oh putain, et donc après on avait fait un Noël absolument merveilleux, donc on arrive sur le repas de Noël. Donc je voulais déjà raconter en plus l'anecdote de mon grand-père déguisé en Père Noël, je l'avais déjà raconté, mais ça me faisait plaisir de revenir dessus. Le mec criminel de guerre, il se déguise en Père Noël, ça peut faire que en Père Noël, ça peut faire qu'un truc horrible. Et donc on avait frappé dans nos mains, nana, en chantant les chansons. On avait fait de la grosse bouffe espagnole, t'avais toute la famille qui était venue, il y avait des carafes. C'était le Moyen Âge en fait. Il y avait des carasses, des espèces de pichets en grès remplis de pinard à 15 degrés là, du gros pinard espagnol bien tannique qui t'arrache le ciboulot. Mais c'était n'importe quoi. Il y avait du brandy dans tout. Tout était alcoolisé. La pintade là. On va faire flamber ça. On fait flamber ci. On fait flamber ça. Putain, à la fin, les gosses, ils ont bu un verre de rhum. Tu t'endors devant Fantagaro quand parce que t'as fini tous les fonds de verre. Et rien que dans la bouffe, en fait, il y avait 8 consos d'alcool, en fait, pour un adulte, tu vois. Rien qu'en mangeant, même si t'as pas bu, t'es pas censé prendre la bagnole de tellement qu'entre les trucs flambés, les trucs et tout. Ma grand-mère avait fait une espèce de plat avec une sauce au vin. Mon frère, il avait la tête comme un compteur à gaz. Bref, c'était vraiment la porcherie. Et puis voilà, on chantait les chansons. Ça parlait très très fort, puisque vous savez, dans les familles méditerranéennes, ça parle très très fort, ça fait mal à la tête. Bon, après, l'Afrique est quand même un cran au-dessus, hein, parce que j'ai fait un Noël aussi africain. Je peux vous dire qu'au niveau sonore, le mal de tête arrive quand même beaucoup plus tôt. Et puis voilà, donc c'était les Noëls de mon enfance avec toute la famille. J'étais très content parce que je voyais mes cousins. Ça parlait moitié français, moitié espagnol et tout. Bon, c'était très 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 agréable. Je voyais aussi ma famille d'Espagne qui montait d'Aragon, puisqu'une partie de ma famille était en Aragon et ils étaient à 5 heures de Toulouse en fait, hein. Même pas à 4 heures, certains étaient à 4 heures de Toulouse. Donc c'était très rapide quoi. Ils passaient les Pyrénées, encore ils étaient à 4 heures parce qu'il y avait les Pyrénées, mais en fait à vol d'oiseau ils étaient à 200 bornes quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment pittoresque. Hein. Et ça a laissé des souvenirs absolument merveilleux où on avait un mélange comme ça de bouffe espagnole avec le jambon de pays, le jambon bellota, et de l'autre du foie gras, puisque mes parents étaient très. Ils étaient. Enfin, mon père a grandi dans une ferme du Lot, donc il avait beaucoup de choses. Enfin, mes parents étaient très intégrés, hein, je veux dire. C'était des Français, hein, des Français d'origine espagnole, mais c'était des Français, quoi. Donc on mangeait du foie gras, on bouffait le. Attendez, excusez-moi, hop, j'ai un petit appel, je mets pause. Oui, excusez-moi, pardon, je viens de recevoir un appel qui était important parce que je suis en train de faire poser la cuisine chez moi, donc voilà, il fallait que je prenne cet appel. Désolé, ça me permet de faire une petite transition vers un Noël qui m'avait aussi profondément marqué, qui est le Noël que j'ai fait avec mon ex-belle-famille, pardon, pas mon ex-famille, mon ex-belle-famille, donc la famille de mon ex-épouse, qui étaient des Congolais et qui fêtent évidemment Noël puisque ce sont des populations qui sont christianisées, qui sont catholiques, certains sont protestants, mais eux ils étaient catholiques. Donc on avait fait un Noël avec la messe de minuit, le tout ce qui peut ressembler à un Noël classique, mais avec évidemment la touche africaine. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Noëls africains, bon, c'est comme dans tout ce qui se passe, en tout cas les Noëls congolais, je vais pas dire Noël africain parce que l'Afrique c'est un continent tellement vaste que ça veut rien dire, mais dans les Noëls congolais, hein, vous avez la question, mais comme dans tout ce qu'entreprennent les Congolais, vous avez la question de l'horaire. Que ce soit à mon mariage, que ce soit à Noël, il y a toujours une heure de prévu et l'heure réelle d'arrivée des invités qui est souvent 2 heures après, voire 3 heures après, sans exagérer, hein, sans exagérer. Donc si vous voulez, ça fixe des grands horaires à 18h et puis tout le monde arrive vers 9-10h. Donc voilà, ça c'est pour commencer. Donc toi t'arrives, t'es comme un con, t'arrives à l'heure. comme un gentil petit occidental à cheval sur les horaires, et puis tu te rends compte que bon, on est dans des cultures très différentes. Après, je dis ça, mais par exemple, les Espagnols, les horaires aussi, il faut s'accrocher. Hein. C'est pas uniquement une couleur de peau, je crois que c'est une question d'être méridional ou pas, et de température, sans doute, quoi. Parce qu'en Espagne, j'ai beaucoup de mal à faire arriver les gens à l'heure, c'est vraiment infernal. Donc voilà, les invités arrivent petit à petit, il y a la tente. Il y a tante Sylvie, tante Goldie, tante. En plus, c'est des prénoms. Voilà, c'est des prénoms vraiment typiquement congolais. Grâce, bonté divine, merveille. c'est des prénoms comme ça, quoi, qui sont très très caractéristiques ou des noms en in. Justine, Fantine, beaucoup de prénoms qui finissent comme ça. Et donc, on avait eu vraiment toutes les tantes et les oncles qui débarquent. Ils sont sapés comme Jaja, avec des costumes. Tu croirais être dans le Harlem des années 70. Les vêtements tweed avec des cols fourrures. Enfin, vraiment, c'est la sape, quoi. Voilà, c'est la sape. Les enfants qui arrivent tirés à quatre épingles. Alors, ce qu'il y a de très drôle avec les enfants. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne la famille africaine. En fait, à un moment, les oncles et les tantes, ils sont secs parce qu'ils ont picolé de la bière. Les Congolais sont des grands, grands amateurs de bière. Donc, ils boivent de la Skol, ce qu'ils appellent la Skol, la bière congolaise. Ils boivent de la Skol, ils commencent à s'ambiancer. Ils mettent du Mbiliabel, ils mettent du Théoblès Kunku, ils mettent tous les standards musicaux. Tous les standards musicaux congolais des années 70, 80, 90. Donc là, ça y va, paf, 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 avec la rythmique de la rumba, tout ça et tout. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont explosé toutes les bières, toutes les sources d'alcool qu'il y avait dans la maison, et il faut aller chercher de l'alcool. Alors là, c'est génial parce que se met en branle le système de parrainage africain. Donc en fait, la daronne dit à l'aîné des enfants, qui a largement l'âge de sortir, aller acheter de l'alcool, va nous chercher, mais genre un truc style 20 paquets de... Voilà, prends le cabas et va chercher 5 paquets de bière, quoi. 5, comment on appelle ça, des putains... Je perds mes mots, à force de plus être en France, c'est terrible. 5 packs de bière. Donc... ce qui se passe, c'est qu'il y a transmission d'ordre de l'adulte vers l'enfant, et ensuite l'enfant aîné va donner un ordre à son cadet immédiat. Donc, si un enfant a 23 ans et qu'il a pas envie d'aller dehors, il va appeler un autre enfant et il va lui dire bon, descends chercher les 5 packs. L'autre enfant qui a, imaginons la grande elle a 20, l'autre il a 19, il va chercher celle qui a 17, va chercher les packs. Celle qui a 17 a pas envie de sortir dehors, donc elle va chercher celle qui a 15, va acheter un truc. Celle qui a 15 a pas envie de sortir dehors, donc à la fin, c'est un gosse de 10 ans qui va chercher de la binouze à 2h du mat. Dans le 93. Alors, ils avaient une épicerie qui était tenue par un chinois qui était ouverte toute la nuit, quoi. Donc finalement, moi j'ai quand même expliqué que bon, le gosse s'il sort tout seul, c'est peut-être non mais il y a pas de problème, d'accord, ok, ça roule. Donc ils ont filé de la thune. Le gosse est allé chercher les packs de bière, il est remonté. Le chinois l'a vendu de la bière. Enfin bref, c'est tout va bien. Tout est très légal là-dedans, hein, c'est génial. Et donc le gamin est remonté avec son cabas, et donc les adultes ont pu se remettre une tête. Et alors après, dans les Noëls congolais, si au bout d'un moment, les gosses ont reçu leurs cadeaux. Et dans les cadeaux, il y a toujours une console, il y a toujours... bon. Et donc en fait, le truc, c'est de se mettre dans un coin, et de surtout pas parler, pour surtout pas se faire repérer par un adulte qui pourrait t'envoyer faire une mission de bâtard. Parce que les missions, il y a des vraies missions. Hein. Des fois, c'est va chercher un tel qui a des cabas. Tu sais, faut prendre le RER, faut aller chercher le cabas, faut revenir faire des trucs de malade mentaux, en fait. Donc les gosses essaient de se faire tout petit. Il faut pas qu'ils parlent trop fort. C'est un peu comme au Vietnam. Faut pas faire de bruit, sinon tu te fais repérer par l'ennemi, en fait. Donc les gosses, ils étaient là, ils jouaient à la console, et quand ils gagnaient, ils étaient en mode ouais, ouais. Ils pouvaient pas crier parce que sinon. Sinon, il y a un adulte qui beugle depuis 3 heures qui va les reprendre. Donc, c'est très très drôle. Donc, ils étaient dans un coin. Ils sont extrêmement taiseux et ils vivent leur Noël dans le silence. Dans le silence. Parce qu'ils sont à côté, en fait, de brontosaures qui peuvent les mobiliser à n'importe quelle minute pour faire des trucs de bâtard. Et après, le repas, ça avait été absolument extraordinaire. pour ceux qui n'ont jamais mangé la nourriture congolaise, mais ça vaut pour une bonne partie de l'Afrique. Je connais pas du tout, je peux pas m'exprimer sur la nourriture d'Afrique de l'Est, mais la nourriture d'Afrique centrale et la nourriture d'Afrique de l'Ouest, il y a des trucs de malade, il y a des trucs géniaux, quoi. Voilà, donc chez les Congolais, tu as ce qu'on appelle le kwanga, tu as le makemba, tu as du poulet braisé, tu as de l'épaule, alors tout est mariné, il y a des sauces de malade. Les bananes plantains, frites et tout, avec un goût de dingue, le piment, les poissons, le tilapia, bon bref, c'était le festoche, il y avait vraiment une tablée monumentale. Le riz, enfin, l'espèce de semoule de mil, tout ça et tout. Ils avaient fait un truc qui est plutôt sénégalais en dessert qui s'appelle le tiagri, qui est un espèce de mélange de céréales, de lait concentré sucré et de fromage blanc. C'est très 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 bon, très très goûtu. Il y a un peu de cannelle dedans et tout, c'est délicieux. Donc en fait, tu te pètes le bide. C'est trop bon. Franchement, la bouffe congolaise, c'est très très bon. La bouffe d'Afrique centrale en général. Et même la bouffe d'Afrique de l'Ouest, le mafé, tout ça et tout, c'est un régal. Bon, à Noël, c'est vrai que quand t'es habitué à bouffer des trucs européens à Noël, c'est très très particulier. Mais c'est leur culture, donc voilà, et à l'extérieur, ce sont des gens. Il faut quand même faire la différence aussi entre les familles que vous voyez. Moi, je considère, je vous le dis parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on aborde. Il y a un énorme angle mort, c'est que vous avez quand même parmi les Noirs, hein, qui sont certaines fois très pénibles en Île-de-France. Moi, quand j'étais allé, j'avais vraiment été choqué déjà du nombre et du comportement de certains. Parce que moi, à Toulouse, par exemple, dans les années 2000, il y avait très très peu de Noirs à Toulouse. Très 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 peu. Hein. Moi, au lycée du Mirail, hein, quand j'y étais, on était en 2000. Je suis rentré au lycée du Mirail en 2000, 2001. On avait peut-être, il y avait quoi? Il y avait une cinquantaine de Noirs sur 2000 élèves. Franchement, hein. Franchement, alors qu'on était au Mirail. Et après, par contre, ça a complètement changé. Voilà. Alors qu'à Paris, moi, j'ai été pion à Paris. Hein, j'ai été pion dans des établissements comme Maximilien Sorr à Cachan. Là, tu avais, par exemple, la moitié des élèves qui étaient d'origine subsaharienne. Hein, c'est impressionnant. Et moi, je me bagarre un peu pour qu'on fasse le distinguo entre les racailles qui viennent souvent de pays qui sont islamisés et qui donc récupèrent la haine de l'occidental via la confrontation des deux blocs, via la réislamisation, typiquement le petit malien qui casse les couilles dans le 93, et vous avez des populations qui sont chrétiennes en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont exempts de fautes et qu'ils font pas de la merde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vois une énorme différence. Par exemple, typiquement les Traoré, c'est une famille qui vient d'un pays musulman qui s'appelle le Mali. Voilà. Moi, dans ma belle famille, je vous assure, hein, c'est pas pour faire du discours de gauche dégueulasse, mais moi, dans ma belle famille, au mariage, il y avait l'intégralité de la famille de mon ex-femme. C'était que des gens qui non seulement avaient un boulot, mais avaient des enfants qui étaient extrêmement bien éduqués et qui n'étaient pas du tout dans un truc racailleusque, pas du tout en mode survette et tout. Les Congolais sont d'ailleurs connus pour avoir la culture de la sape et tout. Vraiment, l'Africain d'Afrique centrale, ce n'est pas le Traoré du fin fond du Mali. Hein. Je suis désolé. Pour moi, il y a vraiment une question culturelle là-dedans. Je pense que le français afro-descendant islamisé est beaucoup plus un problème que l'afro-descendant catholique ou protestant. Voilà. Là, par exemple, à Toulouse, quand il y a eu la manifestation contre les espèces de machines satanistes, là, vous savez, l'espèce de minotaure qui promène dans les rues avec des affiches, il y avait des affiches qui avaient été placardées avec l'église de Saint-Sernin en flammes et tout, mais un truc sataniste au dernier degré. Vous avez les protestants de Toulouse qui ont été sur la brèche, hein, ils sont allés manifester. Je les ai d'ailleurs félicités, même si moi je suis pas du tout près du protestantisme, mais j'ai trouvé que c'était très très bien et la majorité d'entre eux étaient des afro-descendants. Donc, si vous voulez, il faut quand même faire du détail. Il faut quand même faire du détail. Il y a des gens en banlieue qui sont excédés par la racaillerie. Et moi, je trouve, je suis désolé, je vais vexer les gens, mais je trouve que la volonté de détruire et les comportements de radia vont souvent avec en sous-texte une prégnance culturelle de choc civilisationnel. Et ce choc civilisationnel passe souvent par l'unité islamique contre l'unité occidentale. Voilà. Et dans l'unité islamique, vous avez et des Maghrébins, et des Turcs, et des Noirs musulmans. Voilà. Même s'ils sont extrêmement maltraités, même s'ils sont très mal vus par les Maghrébins. Frères, mais pas beaux-frères, hein, je vous le rappelle. Tu peux venir à la mosquée, mais tu peux pas trop venir dans ma sœur. Donc ça c'est le truc que j'ai jamais compris. Ça, j'ai jamais compris des Noirs qui se rattachent viscéralement à l'islam, parce que vraiment c'est une religion qui en règle générale quand même, les endroits où il y a cette religion-là, ils sont assez méprisés. Donc j'ai jamais compris, après 14 siècles d'esclavage, et le mépris qui est affiché, et le discours qui ressort encore chez certains leaders de la communauté maghrébine, je comprends pas qu'ils soient toujours attachés à cette religion. Bon, enfin voilà. Et donc moi, dans ma belle famille, il y avait, typiquement, l'oncle de ma femme était, il était directeur dans un hôpital d'une unité psychiatrique, ce qui est pas rien. Il y avait des enfants qui étaient extrêmement bien éduqués, et moi, à mon mariage, il n'y a eu absolument aucun comportement de racaille. Écoutez, c'est très simple. Les seuls qui se sont battus à mon mariage, ça a été les amis que moi j'avais amenés. Voilà. Je donnerai pas de détails parce que je veux pas leur faire honte, mais les seuls qui sont mal comportés à mon mariage, c'est les amis que moi j'avais amenés. Qui étaient des gars avec qui j'avais bossé, ils se sont embrouillés un moment parce que ils tapaient. C'est les mecs c'était les amis que j'avais quand je bossais en sécurité, des types que j'appréciais beaucoup et tout. Je les invitais à mon mariage les comportements, les mauvais comportements qu'il y a eu sont venus de la part de mes invités. Donc, vous voyez comme quoi. Donc voilà, il faut faire la différence entre la famille Traoré et les familles qui n'ont pas volonté à détruire l'Occident. Et moi, par exemple, typiquement dans ma belle famille, il y avait quand même un amour pour la France et pour la culture française, pour ce qu'elle avait de bon, qui était pas surfait, qui était réel. Hein. Donc c'est pour ça, des fois, je trouve très injuste de mettre tout le monde dans le même panier. Les Maliens islamisés du fin fond du désert à djihad, c'est pas la même chose que les ressortissants d'Afrique centrale qui sont de culture chrétienne et qui ont en plus souvent des parents qui sont venus à l'époque où Paris c'était le feu dans les années 60 et tout et qui ont un réel attachement à Paris et à la France, franchement. Hein. Bon bref, ça c'est pour fermer la parenthèse. Mais c'était quand même important de le dire. Donc le Noël était absolument merveilleux et puis il y a eu la messe de Noël, il y a eu toute la tradition chrétienne autour de ça. Il y avait des produits français, il y avait le champagne, il y avait voilà. Donc si vous voulez, mais c'est comme chez moi en fait finalement. Hein. C'était comme chez moi, c'est-à-dire qu'il y a un Noël culturel et puis après il y a quand même des passages obligés qui sont liés à la grande culture française et on y avait eu droit aussi avec le repas. Il y avait eu les huîtres, hein, alors que bon, les huîtres au Congo, bon. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est des trucs très différents, mais que quand même, il y a une relation, il y a un trait d'union comme ça, via la chrétienté. C'est pour ça que c'est très très important et que je le défends. Il y a un trait d'union entre les communautés autour de très très belles valeurs, voilà. Et moi, je sais que les enfants de ma belle famille étaient très 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 bien éduqués, ils ont eu des très très bons résultats scolaires. Donc c'est pour ça qu'il y a certains discours auxquels je n'ai jamais pu adhérer, parce que j'estime qu'ils procèdent d'une méconnaissance du détail de la banlieue. Voilà, en banlieue, il y a de tout, et c'est comme chez les Maghrébins. Hein. Les Kabyles, c'est une chose, les Côtiers, c'est autre chose, les gens du désert, c'est encore autre chose, les Marocains, c'est pas pareil que les Algériens, les Marocains de la montagne, c'est encore différent des Marocains de la côte. Enfin voilà, vous avez vraiment, il faut rentrer dans le détail, parce que vous avez vraiment de tout, et plus ça va, plus j'essaye quand même d'être juste, et de faire le distinguo. Voilà. Après, est-ce que civilisationnellement, quand tu auras le choc, qui sera avec qui, ça c'est la grande question. Ça c'est la grande question. Voilà. Mais bon, moi en tout cas, je peux vous dire de l'intérieur que j'ai vécu un Noël congolais absolument merveilleux et qui n'était absolument pas incongru en France. Quoi, voilà, et qui avait plein de similitudes avec la culture française, voilà, ça c'est pour fermer la parenthèse. Donc ça c'est le deuxième grand souvenir que j'ai, et le troisième Noël dont je me souviens, c'est un Noël qui avait été, mais alors là ça avait été l'orgie, c'est un Noël où j'avais reçu les Street Sharks. Donc ça c'est un Noël, on avait déménagé, on n'était plus au Mirail, on était à Plaisance-du-Touche, donc on devait être en 96, 97, quelque chose, ou 95, 96, quelque chose comme ça. Et putain, alors là, ça avait été l'orgie, donc sucre, 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 des churros, du sucre, des chocolats, paf, paf, paf. J'étais rosâtre quand j'étais rougeau, j'étais une bonbonne prête à exploser quand j'étais infâme. C'est vraiment le petit enfant irakien tyrannique, quoi, voilà, c'est ça que j'étais devenu. Mes parents me gavaient, j'étais un énorme cochon. Mais même quand je courais, j'étais essoufflé, j'avais bouffé pendant les vacances de Noël. Et vas-y que tu te fais du film. Il y avait mon grand-père, on regardait les westerns, les péplums. Et vas-y que ça envoie de la testo. Là, t'es sur ton canapé, t'es en train de cuver ton sucre et t'as John Wayne qui descend des Mexicains, là, parce qu'il parle espagnol au lieu de parler anglais. Et après, tu regardes Peignure qui roule sur la gueule de Messala, là, pour se venger, tel l'énorme juif revanchard qu'il est. Putain, quel régal, quoi, quel régal. Et là, t'avais tout, quoi, t'avais Charles Bronson. Mais c'était Noël, c'était quand même, tu, 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 tu transitais par les sept salopards, tu te finissais sur Sinbad le marin, c'était énorme. Tu voyais des cyclopes crever, puis après on allait tuer la moitié des Indiens d'Amérique. C'était quand même exceptionnel. Et à l'époque, on t'offrait une VHS. On t'offrait, enfin, je veux dire, t'avais, aujourd'hui, quand je vois sur Netflix et Amazon, les gamins, ils ont 300 films à disposition. À l'époque, quand tu recevais Aladdin, Le Roi Lion ou The Mask, mais putain, ou Jumanji, mais t'étais refait, tu regardais le film 150 fois. T'avais la cassette, dans l'année, tu l'avais vu 10 fois, la cassette, si c'est pas 20, en fait. Rappelez-vous, on avait quoi? On avait 10, 15 films qu'on aimait bien voir. Batman Le Retour, La Famille Adams, Les Valeurs de la Famille Adams, The Mask, Jumanji et quoi d'autre, Daryl, Gulliver, tous les films qui passent à Noël. Bon, tu te regardais ça, mais t'étais refait, quoi. T'étais refait, tu te les re-regardais, tu connaissais les films par cœur, les musiques et tout. Là, je me suis refait, ça faisait honnêtement au moins 20 ans, si ce n'est pas 25 ans, que j'avais pas revu La Famille. Non, mais même plus, je crois que ça fait 25 ans, parce qu'en 2000, je les ai pas revus. Donc ça faisait peut-être, j'ai dû le regarder pour la dernière fois dans la fin des années 90, ça avait peut-être 26, 27 ans que j'avais pas revu La Famille Adams. Là, j'ai revu, je connais le film par cœur, parce que je l'ai tellement regardé quand j'étais gosse, je l'ai tellement poncé que c'était encore très 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 présent dans mon esprit, je me rappelais de tout. Et puis en plus, en le regardant avec un œil d'adulte, tu vois tous les easter eggs qu'il y a dedans, tous les bons trucs qu'il y a dedans, toutes les références que t'avais pas compris quand t'étais gosse et tout ça, plein de choses. Et je l'ai vu avec un œil nouveau, je me suis régalé. Et puis j'ai trouvé le film beaucoup plus... En fait, mine de rien, il aborde des thématiques qui sont... Alors, ça reste un film de grande consommation et tout, mais à l'époque, même les films de grande consommation... Il y avait quand même des thématiques et des valeurs qui étaient abordées qui étaient pas simples, hein, de l'anticonformisme. La Famille Adam, en fait, ça parle de l'anticonformisme. Je l'ai compris en le regardant. C'est vraiment la critique de l'Amérique lisse, standardisée. Il y a une forme là-dedans de critique de la fin de la personnalité. Et la Famille Adam, c'est la famille qui va à l'extrême de l'excentricité, quoi. Et en fait, en réalité, le film a un propos qui est assez sain. Alors, ça reste l'apologie du bizarre et du laid et tout, d'accord. Mais c'est quand même intéressant parce que ça nous montre une autre laideur. Et notamment dans Les Valeurs de la Famille Adams que j'ai revu récemment, ça montre vachement la laideur. Ils vont dans un camp de vacances, en fait, où t'as toute la bourgeoisie américaine qui vient, et ils te montrent la lâcheté, le conformisme des enfants, à quel point on peut les matrixer, à quel point on peut... À quel point les adultes... Peuvent avoir une vision d'uniformisation des enfants et tout. Et franchement, ben c'est des thématiques qui ne sont plus abordées aujourd'hui parce que ça serait vu comme étant trop aujourd'hui. Être anticonformiste, c'est être anti-propagande LGBT, anti-We Are The World. Bon, et ça ne passe plus du tout. Donc quand même, quand on était gosse, les films, et puis bon, ils étaient assez terrifiants. Hein. Alors pas forcément La Famille Adams, mais Jumanji, putain... Tu stressais quand même, les araignées géantes, le mec qui avait pas vu ses parents, il avait perdu ses parents parce qu'il était aspiré par un jeu. Bon, ça va les enfants? Vous avez la larme à l'œil un peu? Bambi, elle se fait décagner par un chasseur là du sud-ouest, là. Elle se fait buter par Lolo Ponce avec un 12, tu vois, la mère de Bambi. Bon, enfin, il te mettait des cartes très rapidement dans les films quand même. C'était pas rigolo, quoi. Il te mettait dans le dur très rapidement. Et puis bon, Oliver Twist et compagnie. Et vas-y que je suis orphelin. Et vas-y qu'il y a des mecs qui essaient de m'enculer. Et compagnie. Tu vois, c'était quand même, les années 90. Les films pour les gosses dans les années 90, c'est un peu le Vietnam quand même, tu vois. Alors, on te file ton M16, ton casque M2 là, et on te dit, allez hop, va voltiger dans la jungle un petit peu là. Putain, mais. Je me rappelle, il y avait des films, c'était dur, hein. Putain, tu regardais ça, mais même Le Roi Lion, quoi. Le Roi Lion, le mec, il perd son daron. Aujourd'hui, les dessins animés n'ont plus du tout cette portée dramatique. Les gosses ne sont plus mis face à des trucs durs, quoi. À l'époque, putain, dans Le Roi Lion, Scar qui plante les griffes, le daron qui meurt, le gosse qui est orphelin. Wow. Il fallait s'accrocher, quand même. C'était pas rigolo, quoi. C'était pas rigolo, et je trouve que la qualité dramatique des films a baissé. L'intensité de l'humour a baissé. Alors peut-être que c'est parce que je suis un adulte, mais quand même, je trouve que c'est moins. Et donc ça faisait que on passait des Noëls. Putain, tu regardais des films. Enfin, quand tu regardes Ben Hur, sa daronne, elle attrape la peste. Il y a des coups de fouet, il y a des mecs qui tombent avec la galère. À un moment, il est dans une galère, la galère est percutée, elle est éperonnée, le bateau coule. Il y a des mecs qui se bouffent la main pour s'en sortir. Enfin, c'est... Non, mais c'est... Et on te mettait ça le 23 décembre, tu vois. Ça va, les enfants? Vous passez un bon Noël? Et moi, ça, c'était un truc qui participait à faire de Noël un truc où tu prenais conscience quand même, via ces films-là, qui étaient des films audacieux, qui étaient des grandes fresques, tu prenais conscience des difficultés de la vie et tout. Mais je trouve que c'était très, très sain. C'était une conjonction de choses. Il y avait de la profusion. Il y avait en même temps un peu de sacralité. Il y avait des valeurs qui étaient mises en exergue malgré tout. Il y avait des programmes spécifiques pour sanctuariser Noël. Il y avait quand même une communion de la société vers quelque chose quand même de très très sain, et il faut le maintenir, les amis. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Et voyez, aujourd'hui j'ai 38 ans, je suis bientôt un homme tout seul de 40 ans. Oh maman, pourquoi il est tout seul, monsieur? Il a critiqué les Arabes sur internet et son pays l'a expulsé pour ça. Je rigole. Maman, pourquoi il est amer, ce monsieur, avec sa barbe blanche? Maman, le monsieur qui a pas de cheveux et la pointe de la barbe blanche, pourquoi il est amer comme... Parce que son pays est occupé par la République et que... Non, allez, je continue pas. Et que tu peux te faire flasher tous les 30 mètres alors que tu peux te faire égorger par un OQTF. Voilà pourquoi il va très très mal. Et puis le pays qu'il a expulsé a fait fermer ses comptes en banque. Donc aujourd'hui, j'ai bientôt 40 ans. Là, je vais faire 39 dans un mois et demi, mais dans un an et deux mois, j'ai 40 piges. Donc si vous voulez, si les Noëls, je m'en rappelle encore aujourd'hui à 40 ans, c'est que le boulot a été fait. Et si j'attache autant d'importance à cette période, c'est que mes parents et la société ont fait des efforts pour que ce soit le cas. Voilà. Donc tout simplement... C'est à votre tour de transmettre, c'est à votre tour de passer un joyeux Noël, de faire de ce moment des moments inoubliables pour vous, pour les vôtres et puis pour vos enfants. Très important, les enfants. Les enfants, c'est l'avenir du pays. Donc, c'est sur eux qu'il faut miser, c'est eux l'avenir, quoi. Voilà, nous, on pourra faire ce qu'on pourra faire. Eux, c'est une nouvelle génération, elle est encore à construire. Donc, voilà, les amis, passez un bon Noël. Pensez à aller à la messe de Noël le soir. Il y en a une à 18h en général, enfin il y en a une un peu avant de manger, enfin bien avant de manger, et une à minuit, ou un peu avant minuit. Donc voilà les amis, vraiment c'est important de refabriquer des traditions, et puis pour montrer aux mondialistes qui nous gouvernent que non, on n'est pas juste des consommateurs, on est un peuple avec des traditions, avec des familles, avec une histoire, avec des goûts qui nous sont propres, qui ne sont pas imposés. On continuera à aimer les produits du sud-ouest. L'Europe veut interdire le foie gras, on continuera à bouffer du foie gras dans le sud-ouest, je vous le garantis, même si on doit se le passer sous le manteau. Voilà les amis, faites un Noël traditionnel, faites un Noël religieux, faites un Noël de famille, faites un Noël de pardon et de concordance et de chaleur humaine. Faites un Noël, ancré territorialement, faites un Noël... Plein de choses qui vous rattachent à de là où vous êtes. Voilà. C'est très, 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 très important. L'identité et la foi, ce sont deux choses qu'on ne doit pas nous enlever, les amis. Qu'on ne doit pas nous enlever. Et on a des traditions merveilleuses, il faut les mettre à l'honneur. Surtout nous, en France, enfin, je veux dire, dans n'importe quel coin de France où vous êtes, il y a forcément une spécialité qui va parfaitement accommoder votre Noël. Vous êtes en Normandie, vous faites péter le camembert du siècle avec le calva du siècle. Vous êtes dans le Jura, vous faites péter le vin jaune du siècle. Vous êtes où vous voulez, vous avez toujours à portée de main un super truc. Vous faites tourner l'artisanat local si vous achetez dans les fromageries. Vous faites tourner l'artisanat local si vous achetez chez les producteurs locaux. En fait, c'est avec des petites actions comme ça qu'on fait un Noël complet. Noël, c'est plusieurs cases. L'esprit de Noël, la féerie, la foi... La tradition et la petite action qui peut être de se fournir, non pas d'aller chez Carrefour pour aller acheter des, 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 des produits d'importation, du saumon écossais ou je sais pas quoi, mais d'essayer de faire péter des trucs de chez nous, bordel de merde. Parce que chez nous, c'est beau, il y a plein de belles choses chez nous, et ça mérite qu'on se batte pour elles, et ça mérite surtout qu'on... Voilà, moi, vous voyez, je suis issu d'une famille 100% espagnole, et pourtant, pour moi, Noël, c'est le foie gras, c'est le sauterne, c'est les produits français. Voilà, ça m'empêche pas de bouffer un bon jambon et de bouffer d'autres trucs espagnols à côté, mais ce que je veux dire, c'est qu'on me l'a transmis. Mes parents l'ont transmis, mais les grands-parents l'ont transmis, mes parents qui me l'ont transmis, et aujourd'hui, ça fait de moi un Français. Et d'ailleurs, coup du sort, c'est rigolo, comme quoi l'histoire... mes grands-parents ont quitté l'Espagne pour des motifs politiques, ils sont venus se réfugier en France. Je quitte la France pour des motifs politiques, je vais me réfugier en Espagne, et je vais faire un Noël français en Espagne, c'est quand même très très rigolo, quoi. Voilà. Donc, je vous embrasse, les amis, prenez soin de vous. Pensez à tout ça. J'insiste pour ceux qui ont des enfants de faire, de leur fabriquer des souvenirs merveilleux. Regardez avec eux les vieux classiques. Ne les laissez pas regarder les merdes qu'on va leur passer. Mettez-leur des trucs qui pèsent. Mettez-leur des trucs qu'on regardait nous quand on était gosses. Et vous fabriquez des enfants solides. Prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite un joyeux mois de Noël. Et puis on se retrouve en vidéo. Donc il n'y aura pas de podcast les semaines qui arrivent. Voilà. Jusqu'à l'après-Noël. Hein, voilà, jusqu'à la fin des vacances de Noël. Comme ça me laisse le temps de me consacrer un petit peu à ma famille et de me consacrer à mon boxeur que je vais amener un petit peu partout en France pour faire des sparring. Donc je ne serai pas en mesure de faire des. Je serai pas en mesure de faire des podcasts. Donc voilà. Mais vous avez de toute façon le lot de consolation avec les vidéos qui sortiront et le live Patreon qui sera certainement d'ailleurs. Soit le 20, soit le 21 décembre, je l'annoncerai sur mon, je l'annoncerai les amis sur mon Instagram. Voilà. N'oubliez pas, il est encore temps de faire vos cadeaux de Noël pour ceux qui n'ont pas encore pensé. Allez faire un tour sur Terre de France. Vous allez soutenir l'entreprise française, me soutenir et soutenir les paysans pour les actions qu'ils vont mener cet hiver, les amis. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, les amis. Passez un joyeux Noël.